Lorsqu'il n'est pas dans sa retraite du Belvédère, Ravel, désormais célébré dans le monde entier, voyage avec sa musique, lui qui n'est presque jamais sorti de France. Londres acclame Ravel le compositeur, mais aussi un Ravel moins connu, le chef d'orchestre, fier d'être admiré dirigeant ses propres œuvres. Aux États-Unis, lors d'un concert où Ravel est resté dans le public, quelqu'un le reconnaît. Pendant plus de 10 minutes, la salle entière, debout, l'applaudit et tente de le faire monter sur scène. Rien n'y fait et Ravel refuse de venir saluer. On est bien loin maintenant du jeune homme qui aimait s'exhiber pour le plaisir d'être vu. La seule concession qu'il fasse encore au public, elle est dans son souci d'élégance, son goût de toujours pour les beaux habits. D'ailleurs, Ravel n'est pas parti seul pour l'Amérique. Il emportait avec lui plus de 50 chemises adaptées à chaque situation. Et son premier mot en arrivant en France, alors qu'il était encore sur le bateau, ce fut pour vanter les merveilleuses cravates qu'il avait trouvées à New York. C'est que l'on peut être un homme connu de tous, un artiste hors pair, et rester malgré cela encore proche de la vie. Et dans une œuvre étonnante, comme lui seul pouvait en écrire, Ravel montre combien il est resté proche de cette vie quotidienne dont il sait peindre les défauts. Cette œuvre, c'est L'enfant et les sortilèges. Un opéra écrit en collaboration avec Colette, le grand écrivain à peine plus âgé que Ravel. La célèbre romancière est alors en pleine gloire. Une gloire qui lui vient des nombreux ouvrages où elle observe aussi bien les hommes que les bêtes. Et c'est bien là un point commun à Colette et à Ravel que d'être proche des animaux et d'aimer les enfants. D'ailleurs, dans L'enfant et les sortilèges, dans une musique dite « pour tout public », chacun d'eux décrit à sa manière les mésaventures d'un petit garçon qui n'en fait qu'à sa tête, jusqu'au jour où les objets et les animaux qu'il maltraite décident que cela suffit et qu'ils doivent se révolter. Et si vous ne comprenez pas la conversation de cette théière anglaise avec sa compagne, la tasse chinoise, tout à coup animée, rassurez-vous, c'est du chinois. Ça aura toujours l'air chinois, disent-elles toutes deux. Mais le petit garçon de l'histoire qui vient de les casser comprend très bien la leçon qu'elle lui donne.
How is your Meg?
Rotten.
Better had.
Come on.
Black and costo, black and chic, black, 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 jolly fellow, black. I punch her. I punch her. I punch. I knock out you soupy chose black, black, and thick, and web of us, and web of us. I bought you, I marmad you.
Quelques années après cette musique si drôle et pétillante, Ravel est victime en 1932 d'un accident de voiture, apparemment sans conséquence. Pourtant, sa santé déjà altérée se dégrade de plus en plus vite et l'activité de son cerveau est progressivement ralentie. Lui qui était si vif ne peut plus composer. Sa mémoire disparaît. Il a du mal à parler. Parfois même ses membres ne lui obéissent plus. Et si Ravel meurt le 28 décembre 1937, 5 ans après cet accident, c'est bien de 1932 qu'il faut dater sa véritable mort, sa mort musicale. Des 2 concertos pour piano achevés juste avant cet accident, il est difficile de dire quel est le plus beau et de n'en écouter qu'un court extrait. Ce n'est pas que ces concertos se ressemblent, au contraire, ils se distinguent aisément, ne serait-ce que parce que l'un d'eux, le célèbre concerto pour la main gauche, fut composé à la demande d'un pianiste autrichien, Paul Wittgenstein, amputé d'un bras à la guerre. Ravel composa pour lui une partition tellement difficile à jouer que Wittgenstein dut la modifier légèrement pour en venir à bout. De sorte qu'il fallut créer l'œuvre une seconde fois, à Paris, où Jacques Février, un pianiste qui avait bel et bien l'usage de ses deux mains, sut avec sa seule main gauche interpréter le redoutable concerto pour la main gauche, tel que Ravel l'avait écrit. Et s'il faut vraiment choisir entre ces deux concertos pour piano, écoutons celui qui est écrit plus classiquement pour deux mains. Mais ceci est une bien triste fin que Ravel n'aurait sans doute guère appréciée. Alors, si nous revenions à notre fameux boléro, vous vous rappelez ? Celui du début, celui dont Ravel disait qu'il aurait dû l'appeler « Mettez-vous bien ça dans la tête !» parce qu'il ne fait que répéter d'un bout à l'autre la même mélodie reprise chaque fois par un instrument différent. Eh bien, ce boléro, c'est aussi l'une des dernières œuvres que Ravel ait écrites, l'une de celles où l'on retrouve une sorte de résumé de ses goûts, de sa musique et des défis qu'il aimait se lancer. Et à propos, lorsque Ravel affirmait que son chef-d'œuvre était vide de musique, vous aviez compris qu'il le disait avec son humour habituel, bien sûr. Mais vous comprenez maintenant que c'était aussi une façon bien modeste de dire que ce boléro était plein d'une musique vivante, une musique qui lui était personnelle, une musique ravelienne. Sa musique.